RFI vous donne la parole. À tout de suite.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité. Et ce matin, nous reviendrons ensemble sur le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Un processus, vous le savez, qui piétine. En tout cas, ces trois dernières semaines se sont tenues à Abidjan les audiences publiques réunissant victimes et bourreaux. Mais seules 80 personnes ont été auditionnées, 60 victimes et 20 bourreaux. Et malgré la force des témoignages, eh bien, ces auditions n'ont pas suscité l'engouement populaire attendu. Pourtant, ces audiences étaient présentées comme cruciales pour la réconciliation. Alors, quel bilan dressez-vous justement de ces face-à-face? La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation a-t-elle finalement échoué dans sa mission? Et maintenant, dites-nous quelle doit être la prochaine étape pour réconcilier les Ivoiriens après plus d'une dizaine d'années de crise politico-militaire. Vous nous rejoignez, vos commentaires et vos témoignages, vous le savez, nous intéressent. 33 9 693 693 70 09 693 693 70, et vous continuez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, des questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous venons par exemple de traiter dans le journal de 10h, les sujets que nous traitons tout au long de la journée pour vous informer. Eh bien, n'hésitez pas, vous nous contactez, n'attendez surtout pas d'ailleurs le début de l'émission pour le faire. Vous pouvez nous rejoindre 24 heures sur 24 pendant la nuit, évidemment vous tombez sur le répondeur, mais vous nous laissez vos prénoms, coordonnées, numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. La première question nous vient d'Abidjan. Nous accueillons Séraphin. Bonjour Séraphin. Allô, allô. Est-ce qu'on a Séraphin ? On n'a pas Séraphin. On a un problème de standard, de téléphone. Avons-nous tout de même Maureen Grisot, qui est l'une des correspondantes d'RFI en Côte d'Ivoire ? Maureen ?
Oui, le réseau fonctionne chez moi.
Le réseau fonctionne chez vous. En revanche, du côté de chez Séraphin, il ne fonctionne pas. Je vais donc me faire le porte-parole de Séraphin. On va essayer de le retrouver, évidemment, dans un instant. Séraphin qui revient sur le différent frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Séraphin, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Monsieur Gomez et bonjour à tous les états de RFI.
Voilà, il suffit d'être patient et les dieux des télécoms sont avec nous. On vous écoute, quelles sont vos questions concernant les querelles frontalières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana?
Ok, et la semaine dernière j'ai appris sur les ondes de RFI que le Ghana aurait demandé à un tribunal international les tranchées différents maritimes qui reposent la Côte d'Ivoire depuis les années 80. Alors à ce sujet, il y a trois préoccupations. La première, quelles sont les causes profondes qui seraient à l'origine de ces différents maritimes? Et ensuite, pourquoi toutes les négociations qui ont eu lieu dans le passé n'ont pas pu admettre à une résolution à l'amiable?
Alors, les négociations qui ont lieu effectivement entre Abidjan et Accra depuis plusieurs mois, elles ont échoué. Maureen Grisot, qui est donc l'une des correspondantes d'RFI en Côte d'Ivoire, faut rappeler que autant la frontière terrestre entre les deux pays est clairement définie, autant il y a un vrai litige concernant le tracé de la frontière maritime. C'est vrai que la semaine dernière, le Ghana a porté plainte devant le Tribunal international du droit de la mer. Et du coup, la Côte d'Ivoire, le lendemain, a également saisi les juridictions internationales compétentes. Quelle est l'origine, Maureen, de ce différend maritime?
Ah, bonjour, Séraphin. Déjà, contente que le réseau fonctionne enfin chez vous. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'abord d'une question de gros sous liée à la présence de pétrole offshore qui est dans cette zone litigieuse dans les eaux en face de la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et le problème de cette frontière maritime, c'est donc une de l'histoire, vous l'avez dit, Séraphin. Le tracé n'a jamais été précisément défini après les indépendances. Et les deux pays avaient délimité une espèce de ligne médiane et ils auraient convenu de ne pas exploiter ce qui pouvait se trouver dans cette zone propice donc au liquide. Mais tout se complique quand en 2007, le Ghana découvre une réserve de pétrole, non loin de là, estimée à environ 1,8 milliard de barils, l'une des plus importantes découvertes d'Afrique de l'Ouest, très près, trop peut-être, de cette ligne médiane. Et en février 2010, l'exploitation commence. Quelques semaines plus tard, le ministre ghanéen des Ressources naturelles accuse la Côte d'Ivoire de réclamer une partie de son espace maritime, justement à cause de la présence de ce pétrole. Les Ivoiriens, eux, se plaignent que le Ghana a enfreint la règle de non-exploitation dans la zone litigieuse. Après 4 ans, c'est donc l'échec des négociations et les deux pays s'en remettent à l'ONU, son tribunal international du droit de la mer, pour faire l'arbitrage.
Ouais, les deux pays s'en remettent donc à l'ONU. Pourtant, Séraphin le rappelait tout à l'heure, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient mis en place une commission bilatérale pour privilégier le dialogue, pour essayer de parvenir à une entente de façon, amicale. Pourquoi les négociations ont-elles échoué ?
Parce qu'en fait, il faut bien comprendre les enjeux. La Côte d'Ivoire est encore un producteur de pétrole très modeste, avec environ 40 000 barils par jour. Et la présence sur cette ligne médiane, pas vraiment définie, d'une réserve de près de 2 milliards, c'est bien évidemment naître des espoirs et des frustrations côté ivoirien, de voir son voisin se lancer dans l'exploitation à grande échelle. Les Ghanéens, eux, se sont probablement impatientés. Et ils paraissent en tout cas sur deux. La semaine dernière, le coordonnateur national du secrétariat ghanéen de la frontière maritime a expliqué lors d'une interview sur une chaîne nationale que cette procédure devant l'ONU, prévue pour durer environ 3 ans, pourrait coûter au pays plusieurs millions de dollars, mais qu'en fait c'est une fraction minime des bénéfices commerciaux que le Ghana s'attend à retirer de l'exploitation de la zone conflictuelle. Et tout semble pourtant avoir été tenté pour trouver un accord à l'amiable. Et si le Ghana a un premier temps en 2010 accusé les Ivoiriens d'avoir saisi l'ONU, il y avait donc cette commission mixte, vous l'avez dit, qui avait réuni les deux pays pour de nombreuses rencontres et même jusqu'en février 2014, Yamoussoukro, il s'était entendu sur la méthode de délimitation de cette frontière. Il devait se réunir quelques mois plus tard pour aboutir à une solution commune et on voit bien qu'ils ne sont pas parvenus.
Il faut dire que la décision qui sera prise par le tribunal international du droit de la mer sera définitive et contraignante, dossier évidemment à suivre. Séraphin, vous aviez une dernière question ?
Oui, la dernière préoccupation est de savoir quelles pourraient être les conséquences de ces différends sur les relations diplomatiques entre les deux pays.
Des relations qui sont déjà tendues, Maureen Grisot, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire.
Elles le sont depuis la fin de la crise post-électorale, mais plutôt à cause du soutien affiché du gouvernement ghanéen aux proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Des milliers de ses partisans se sont réfugiés dans des camps non loin de la frontière ivoirienne côté ghanéen, au moment de l'arrestation de leur mentor. Et de nombreux chefs du FPI, le parti créé par Gbagbo, se sont retrouvés à Accra, et l'aile dure de cette formation politique, qui est toujours en exil. Malgré cet accueil qui a beaucoup agacé au sein du gouvernement ivoirien. Je vous rappelle qu'il accuse ses exilés d'avoir fomenté les attaques qui ont frappé le pays fin 2012 et même encore après. Malgré tout ça, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, le successeur du défunt John Evans Atanis, ils ont toujours affiché officiellement une entente cordiale, voire même plus, parce qu'il y a une dizaine de jours à New York, le président ghanéen aurait affirmé lors d'une rencontre avec des investisseurs que la réélection en 2015 de son homologue ivoirien serait une bonne chose, notamment pour la stabilité du pays. Alors vous voyez qu'à la fin, la politique semble pour l'instant se placer au-dessus des conflits de territoire, mais impossible de dire pour encore combien de temps.
Effectivement, bonne question. À bientôt, Maureen Grisot. Merci d'avoir été en direct avec nous d'Abidjan. Séraphin, merci de nous appeler. N'hésitez pas, vous revenez évidemment dès que vous avez des questions concernant l'actualité. Nicolas Falaise du service international nous rejoint dans ce studio. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Des questions concernant l'Irak et notamment l'armée irakienne. Bonjour Edbert.
Bonjour Juan Gomez, bienvenue à Parakou, la métropole du nord du Bénin.
Parakou au nord du Bénin, effectivement. Quelles sont vos questions concernant l'armée irakienne?
Alors Juan, est-ce que l'armée irakienne a la force nécessaire pour coopérer avec la coalition internationale dans la lutte contre l'État islamique?
Ah, bonne question. Nicolas Falaise, c'est vrai que les États-Unis et la communauté internationale comptent sur l'armée irakienne pour combattre les djihadistes, puisque aucun pays ne souhaite, pour l'instant, en tout cas, déployer des hommes au sol. En même temps, la faiblesse de cette armée, elle est incontestable. Et pour comprendre dans quel état elle est aujourd'hui, il faut peut-être faire un petit retour en arrière.
Ouais, après l'invasion américaine de 2003 et la chute de Saddam Hussein, c'est un nouvel état et une nouvelle armée irakienne qui ont été construits. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la débasification du nom de l'ancien parti unique irakien, le Baas, qui contrôlait toutes les institutions et l'armée. Alors c'est d'ailleurs un choix radical à l'époque qui est considéré comme l'erreur originelle en Irak, qui a créer les problèmes d'aujourd'hui, puisque des milliers d'anciens cadres, d'anciens fonctionnaires et d'anciens officiers ont été écartés et parfois ont rejoint les différentes insurrections contre le nouveau pouvoir irakien. C'est donc une armée irakienne toute neuve qui s'est retrouvée en première ligne lorsque les derniers soldats américains ont quitté le pays en 2011. Et la suite, on la connaît, la remontée de la violence en Irak, alimentée à la fois par le conflit en Syrie voisine, et puis par la politique de mise à l'écart des sunnites, par le nouveau pouvoir irakien, majoritairement chiite, qui a permis aux djihadistes de l'État islamique de s'emparer de larges secteurs du territoire. Fin 2013, début 2014, l'armée irakienne a perdu ainsi le contrôle d'une partie de la province sunnite d'Al-Anbar, dans l'ouest du pays, et en juin dernier, spectaculaire poussée des djihadistes qui ont progressé très rapidement dans le nord de l'Irak, prenant Mossoul, la deuxième ville du pays, et s'approchant même de Bagdad, la capitale. À ce moment-là, on a vu l'armée irakienne s'enfuir devant les djihadistes, abandonnant même du matériel à ses ennemis. Et c'est pourquoi, effectivement, aujourd'hui, l'analyse partagée par tous, c'est que la lutte contre l'organisation de l'État islamique passe par les frappes aériennes, mais aussi par le soutien à cette armée irakienne qui a montré ses limites.
Oui, une armée donc incapable d'assurer la sécurité du pays. D'ailleurs, ça peut sembler anecdotique, mais enfin, l'histoire est quand même suffisamment révélatrice de l'état dans lequel se trouve cette armée. Il y a deux semaines, l'armée de l'air irakienne a livré par erreur de la nourriture, de l'eau et des munitions aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique, alors que ces livraisons étaient tout de même destinées à des militaires irakiens assiégés dans ces deux villages. Alors ça a évidemment fait polémique sur place, et un général de l'armée a reconnu effectivement que tous les pilotes aujourd'hui sont très jeunes, ils sont nouveaux, inexpérimentés. Donc voilà, on reconnaît le manque d'expérience. De quoi a-t-elle besoin aujourd'hui cette armée irakienne, Nicolas ?
Alors, de matériel, notamment pour remplacer celui qui a été volé, saisi par les djihadistes dans leur progression, mais pas seulement. Donc, en ce qui concerne le matériel, les États-Unis, alliés de l'Irak, sont le principal fournisseur. La France a prévu de fournir du matériel à l'armée irakienne dans le cadre de la mobilisation internationale face à l'organisation de l'État djihadiste, de l'État islamique, pardon. Un officiel français qui suit de très près le dossier m'expliquait hier que, au-delà du matériel, c'est surtout un problème d'encadrement et de motivation que l'on constate au sein de l'armée irakienne. Et là, on retrouve le problème confessionnel du pays. Est-ce qu'aujourd'hui un soldat chiite est motivé pour aller se battre dans les provinces sunnites de l'Irak? Alors, s'il faut travailler sur cette composition, sur l'organisation de l'armée, c'est aussi un problème politique irakien, et ce sera un processus très long, alors qu'on est dans une situation d'urgence.
Effectivement. Merci Nicolas Falaise d'être venu répondre à Edbert, qui nous appelait de Parakou, 10h23 à Paris. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat du jour consacré au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, avec en toile de fond la fin des audiences publiques sur place à Abidjan, face à face, bourreau, victime, 33 9 693 693 70. Sony, bonjour.
Bonjour Anne Gomez, bonjour RFI.
Vous nous appelez de Bamako, vous êtes au Mali, et vous avez des questions concernant l'Algérie.
Exactement. Je voudrais intervenir par rapport à l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie. Alors, ma préoccupation est la suivante. Quel dispositif déployé par l'armée pour retrouver les corps d'Hervé Gourdel?
Le dispositif mis en place par l'armée, c'est vrai qu'une semaine après la décapitation d'Hervé Gourdel, l'armée algérienne continue ses opérations pour chercher le corps du randonneur français. Bonjour Leïla Berato.
Bonjour Juan.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Alger. Les autorités, on a l'impression qu'elles communiquent peu sur la conduite des opérations. En même temps, il y a du monde sur le terrain. On parle de 2000, voire même 3000 militaires.
Oui, effectivement. Alors, les déclarations ne proviennent pas des autorités, puisque vous le disiez, elles sont très discrètes, mais plutôt de sources sécuritaires qui annoncent via les médias que plusieurs milliers d'hommes sont dans les montagnes du Djourdjoura. Ces hommes, ce sont des militaires des forces spéciales. Il y a des parachutistes et des unités spécialisées dans la lutte antiterroriste. Ils ont pour objectif de retrouver le groupe. Ils se sont donc divisés en deux, puisque le terrain inclut deux pans de montagne, deux versants. Ils se sont divisés dans le but d'encercler un groupe terroriste s'il est toujours dans la région. Ces hommes sont aidés par des hélicoptères, par des détecteurs de chaleur et de mouvement humain et des chiens spécialisés dans la traque de ces groupes terroristes dans les maquis. Ils sont effectivement plusieurs milliers et parallèlement à ça, il y a l'enquête qui se poursuit et l'enquête qui a permis d'auditionner les 5 hommes qui étaient les accompagnateurs du randonneur français.
Ouais, en tout cas, les recherches risquent d'être longues puisque la difficulté tient au fait que la zone est très montagneuse. Il y a de nombreuses grottes, de nombreux tunnels, les caches sont multiples, le terrain est très difficile. Donc, chaque mètre carré de cet espace est exploré. Vous aviez une autre question, Sonny ?
J'avais une autre question. Quels moyens sont mis en place par les autorités algériennes pour lutter contre les terrorismes sur leur territoire?
Ah, le terrorisme en Algérie. Leïla Berato, l'assassinat d'Hervé Gourdel suscite, on le voit depuis une semaine, de nombreuses inquiétudes sur place en Algérie quant à la situation sécuritaire.
Oui, alors ça suscite beaucoup d'inquiétudes parce que c'est vrai que c'est un groupe qu'on ne connaissait pas avec une telle communication. C'est un groupe qui est très très récent, qui en fonction des spécialistes a été créé soit pendant l'été, soit en mois de septembre. Mais une telle stratégie de communication et une telle manière de kidnapper un ressortissant étranger et de l'assassiner de cette manière, c'était nouveau et c'est ce qui a choqué. Mais il faut savoir que le terrorisme en Algérie n'a pas disparu. Il y a quelques mois, juste après l'élection présidentielle, 14 militaires ont été tués dans une attaque en Kabylie. Il y a quelques jours, deux militaires ont été tués dans une région de l'ouest du pays. Le terrorisme n'a pas disparu. Pour lutter contre ce terrorisme, il y a effectivement des brigades spéciales, des mesures spéciales. L'Algérie est un pays où il y a encore beaucoup de barrages de gendarmerie, beaucoup de contrôles de police, beaucoup de contrôles de papier, beaucoup de gens aux frontières, hein, des forces armées aux frontières. Ce qui fait aussi la lutte antiterroriste, c'est ce plan de réconciliation nationale qui a été créé par Abdelaziz Bouteflika. L'objectif, c'était de convaincre ceux qui s'étaient laissés tenter par l'extrémisme pendant les années 90 de revenir à la vie civile en échange d'abandon de toute poursuite judiciaire. Mais ce plan aujourd'hui est remis en cause par un certain nombre de gens puisque les hommes qui composent ce groupe des soldats du califat qui a kidnappé et assassiné Hervé Gourdel, eh bien ces hommes, deux de leurs leaders sont des hommes qui font partie des groupes terroristes depuis les années 90 et qui sont donc connus des services de sécurité depuis les années 90.
Alors justement Ousmane qui nous écoute à Gao, malheureusement la ligne ne passe plus avec cette ville malienne. Il nous dit, mais y a-t-il un lien entre ce groupe, les soldats du califat, et les groupes armés des années 90 ? Oui, en tout cas, pour celui qui semble être apparemment à la tête des soldats du califat, autrement dit Ghouri Abdelmalek, mais ce groupe-là trouve ses racines, effectivement, dans la guerre civile des années 90 ?
Alors tant qu'on ne sait pas qui sont précisément les membres de ce groupe des soldats du califat, je ne peux pas vous répondre de façon précise. Mais ce qui est sûr, c'est que des membres du GSPC, qui était le groupe terroriste des années 90 en Algérie, sont ensuite devenus des membres d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ensuite, certains membres d'ACMI semblent être devenus des membres de ce groupe des soldats du califat qui a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. Donc si deux d'entre eux, puisque ce sont deux personnes qu'on a pu identifier, ont suivi ce parcours-là, il ne serait pas étonnant que d'autres aient suivi ce même parcours et que donc d'autres hommes d'une quarantaine d'années à peu près aient suivi le même parcours, c'est-à-dire GSPC, ACMI et soldats du califat.
Oui, voire même avant le GSPC, le GIA, groupe islamique armé, groupe connu en France, on s'en souvient, pour avoir commis un certain nombre d'attentats dans les années 90, notamment dans le métro parisien. Leïla Berato, merci d'avoir été en direct avec nous d'Alger. Merci à Ousmane qui nous écoute du côté de Gao au Mali. Dans un instant, évidemment, notre débat du jour, nous reviendrons sur les différentes audiences qui se sont déroulées ces trois dernières semaines à Abidjan pour tenter de réconcilier les Ivoiriens. Des audiences censées être publiques, il y avait peu de monde dans la salle. La salle ne comptait que 100 places, donc c'est vous dire que les Abidjanais ne pouvaient pas venir en masse assister à ces audiences. audience publique, face à face, bourreau, victime. L'engouement attendu sur place n'a pas eu lieu. Pourquoi ? On va essayer de comprendre cet échec et surtout peut-être les erreurs commises par la commission. Dialogue, vérité et réconciliation. Un seul numéro, 33 9 693 693 70. Tout de suite le journal.
Appel sur l'actualité. Vous a été présenté.